9h sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Le seuil, on peut le placer à 65, 70 ans, qui détermine les gens pour qui il faudra rester extrêmement prudent, parce que s'ils étaient à nouveau exposés au virus, ils seraient à risque de faire des formes graves.
Un déconfinement par tranche d'âge, hypothèse sur laquelle travaille le gouvernement. Le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, estime que les plus de 65 ans devront sortir plus tard. Près de 400 000 entreprises ont demandé du chômage partiel, mais les aides virent parfois au casse-tête pour les PME.
Ça prend beaucoup plus de temps pour gérer les choses. J'ai vraiment basculé mon temps là sur vraiment la gestion de trésorerie. Ce matin, j'y ai passé presque 3 heures.
La crise sanitaire s'aggrave, terreau idéal pour certains arnaqueurs qui arrivent à se faire verser des sommes considérables pour de pseudo-achats de masques, parfois des millions d'euros.
Ils mettent vraiment la pression à leurs interlocuteurs. Et du coup, ces pharmacies, ces hôpitaux sont amenés à verser de l'argent mais ne voient jamais la marchandise arriver.
Et puis l'Élysée veut envoyer un message en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les personnes qui en souffrent et leurs aidants auront droit à un confinement élargi. Juste après ce journal, Mathieu.
Mon invité sera Laurent Garcia. Il est cadre de santé dans l'EHPAD Les 4 Saisons de Bagnolet, commune limitrophe de Paris, en Seine-Saint-Denis. Nous allons parler des personnels des EHPAD et puis peut-être des inquiétudes que vous avez, vous, proche d'une personne âgée placée. N'hésitez pas à témoigner au 39-21.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le déconfinement, tout le monde connaît ce mot désormais et attend de savoir quand il interviendra. Selon Édouard Philippe, il se fera progressivement, peut-être par classe d'âge. Ce matin sur Europe 1, le professeur Arnaud Fontanet a donné un peu plus de précision sur ce point. Il est épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique.
Notre but, nous, en tant que Conseil scientifique, c'est de fournir des scénarios au gouvernement. Et ces scénarios incluent en effet que on soit en mesure d'identifier des populations plus ou moins vulnérables qui, elles, devront rester confinées plus longtemps. Donc on sait tous aujourd'hui que, par exemple, les sujets qui sont âgés, alors il n'y a pas de seuil qu'on puisse mettre très facilement, hein, mais on sait qu'à partir de 60 ans, si vous êtes infecté, le risque de faire une forme grave et de mourir de la maladie est plus important. Et le seuil, on peut le placer à 65, 70 ans, qui détermine les gens pour qui il faudra rester extrêmement prudent, parce que s'ils étaient à nouveau exposés au virus, ils seraient à risque de faire des formes graves. Donc c'est ce que je pense, Édouard Philippe pense, à quoi faisait référence quand il disait qu'il y aurait des conduites à tenir différentes selon les classes d'âge, parce que les populations les plus âgées, si elles sont exposées, font des formes plus graves.
Le professeur Arnaud Fontanet au micro de Sonia Mabrouk. Face à la saturation des hôpitaux d'Île-de-France, les opérations de transfert se poursuivent. Depuis hier soir, une centaine de patients sont transportés par hélicoptère en centre-Val de Loire, en Normandie et en Pays de la Loire. Opération qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui.
Vous le savez, on manque de bras pour gérer les malades. Des milliers de médecins, infirmiers ou aides-soignants ont déjà rejoint la réserve sanitaire.
Oui, c'est le cas du docteur Véronique Asselineau-Molina. Elle est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Bicêtre en banlieue parisienne. Et là, elle travaille en réanimation.
Depuis quelques jours, je ne suis que très rarement chirurgien. Je suis parfois aide-soignante, comme j'ai été ce matin. Je m'arrivais de prendre des fonctions d'infirmière. C'était une évidence, puisqu'il était hors de question de voir tout le monde s'épuiser et ne pas aider. Or, je ne serai jamais réanimateur, hein, ça c'est pas possible. Et donc, on a cherché comment aider. Il faut vraiment s'habiller en cosmonaute pour rentrer dans la chambre. Et donc, c'est prendre la fréquence cardiaque, la pression artérielle, c'est apporter les repas, c'est si besoin l'aider à la toilette. Nous sommes leur seul lien, donc c'est parler un peu avec le patient. C'est pas moins prestigieux. Moi, je suis fière de moi. J'ai apporté du soutien aux patients. C'est un peu épuisant, surtout que là, ça doit faire 12 jours que je travaille tous les jours. Mais en même temps, on ne peut pas laisser des gens sans aide. Non, c'est pas possible.
Témoignage du docteur Asselineau Molina, recueilli par Mathieu Charrier. Hier, plus de 500 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures à l'hôpital. Plus de 4000 morts au total. Mais presque 11 000 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis un mois. Édouard Philippe va tenir tout à l'heure une réunion par visioconférence avec les présidents de partis et de groupes parlementaires pour faire le point sur l'épidémie. Et ce soir, le Premier ministre sera l'invité d'une soirée exceptionnelle sur TF1 depuis Matignon. Le couvre-feu est désormais instauré en Martinique et en Guadeloupe. Interdiction de se déplacer sauf urgence entre 20h et 5h du matin, mesure déjà appliquée en Guyane, à Mayotte et en Polynésie.
Au total, 337 000 entreprises ont déjà demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel. 3 600 000 salariés sont concernés. C'est un cinquième des salariés du privé.
Oui, certes, l'État est disposé à aider les dirigeants de toutes les entreprises en difficulté, mais pour les PME, sans service juridique, c'est parfois compliqué de s'y retrouver dans la jungle des démarches administratives. Maud Descamps.
Ça prend beaucoup beaucoup plus de temps pour gérer les choses. J'ai vraiment basculé mon temps là sur vraiment la gestion de trésorerie. Ce matin, j'y ai passé presque 3 heures.
Ces tâches administratives, d'habitude, Anne, dirigeante de plusieurs PME spécialisées dans le secteur de la pêche, n'y consacre pas plus de 20 minutes par jour. Désormais, il lui faut l'aide de conseillers professionnels pour s'en sortir.
Il faut être vraiment entouré, donc, que ce soit au niveau de l'expertise comptable ou des personnes qui savent gérer l'URSSAF et tout, parce que on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a une gestion de trésorerie à faire.
Gérer la trésorerie, c'est aussi le principal souci d'Olivier, patron de 5 restaurants à Paris. Tous sont fermés. S'il salue la rapidité avec laquelle les mesures d'aide aux petites entreprises ont été annoncées, il dénonce néanmoins le comportement des banques qui, elles, ne jouent pas le jeu.
Les banques demandent beaucoup de papiers que les comptables débordés déjà ne peuvent pas nous donner. Et les banques ne réagissent pas toutes positivement. Et il y en a même qui disent qu'elles ne souhaitent pas prendre de risques. Ça reste une situation invraisemblable.
Une fois ces aides obtenues, ce patron de 80 salariés se lancera dans d'autres démarches, pour préparer la reprise de son activité.
600 salariés qui risquent de se retrouver sur le carreau. L'enseigne de chaussures André est la première entreprise victime du coronavirus après avoir perdu près de 4 millions d'euros en 15 jours. Elle a déposé le bilan et a été placée en redressement judiciaire.
Et dans ce contexte de crise économique, Denis Machuel, directeur général monde du groupe Sodexo, le géant mondial de la restauration collective, il était mon invité ce matin à 7h40. L'entreprise lance un programme de soutien aux collaborateurs qui vont perdre leur emploi.
Oui, 30 millions d'euros qui seront financés notamment par les contributions des principaux dirigeants du groupe.
Pendant les 6 prochains mois, ainsi que la présidente du conseil d'administration, le comité exécutif, comme je disais, baisse également sa rémunération et aucun bonus ne nous sera versé. Et c'est la même chose pour les 200 principaux dirigeants qui ne toucheront pas leur bonus.
Le directeur général monde de Sodexo. Nouveau bilan catastrophique aux États-Unis, 884 morts en une journée, plus de 5000 au total, dont un bébé de 6 semaines dans le Connecticut. C'est l'une des plus jeunes victimes du virus. Les États-Unis prêts à tout, semble-t-il, pour récupérer des masques, y compris sur le tarmac d'aéroports chinois. Des masques commandés par la France auraient ainsi été rachetés en liquide 4 fois plus cher.
Une atmosphère dans laquelle les escroqueries se multiplient un peu partout en France. Des malfaiteurs ont déjà soutiré plusieurs millions d'euros à des hôpitaux, des EHPAD ou des pharmacies.
Oui, des escrocs spécialisés dans ce qu'on appelle les faux ordres de virement, Guillaume Biais.
Oui, ce sont des escrocs redoutables au discours bien rodé qui se font passer au téléphone pour un fournisseur habituel en masque ou en gel hydroalcoolique et qui réussissent à engranger de grosses commandes, raconte Anne-Sophie Coulbois, la chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Ils prennent l'identité d'un fournisseur habituel, ils contactent ces établissements et leur disent « Je viens d'avoir un stock de masques, je sais que vous en avez besoin, dépêchez-vous, mon stock fond à vue d'œil, donc voilà, je vous envoie directement une facture pro forma, vous trouverez mes coordonnées bancaires dessus, faites-moi un virement. » Et donc en fait, voilà, ils mettent vraiment la pression à leurs interlocuteurs. Et du coup, ces pharmacies, ces hôpitaux sont amenés à verser de l'argent et ne voient jamais la marchandise arriver.
Même si c'est un fournisseur habituel, une entreprise qu'on connaît déjà, il faut quand même se méfier et rappeler, c'est le conseil.
Ah oui, c'est indispensable. Il faut vraiment rappeler ou recontacter avec les coordonnées qu'on a déjà.
En clair, vérifier et ne pas se précipiter pour éviter de grosses pertes, des dizaines de milliers d'euros pour plusieurs sociétés médicales ou encore cette firme pharmaceutique près de Rouen qui a perdu 6,5 millions d'euros.
Les informations de Guillaume Biais. Et puis on l'apprend ce matin, en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'Élysée annonce que le confinement va être aménagé pour les autistes et ceux qui les accompagnent au quotidien. Ils auront un formulaire spécifique pour pouvoir se déplacer et retrouver les repères qui les rassurent.
Voilà une très bonne chose, puisque ça évolue dans la matinée. Vous voyez, à 6h, nous étions en direct avec la présidente d'Autisme France, en direct sur Europe 1. À 6h, il demandait justement cet aménagement, la complexité de la gestion au quotidien du confinement avec un enfant autiste notamment, il n'y a pas que les enfants. Voilà une bonne chose en tout cas pour les personnes concernées en cette journée mondiale de l'autisme. Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 9h. Il est 9h09.
Mathieu Béliard.
Les abeilles. Avouez que vous l'attendiez, Fanny Agostini. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
On retrouve notre rendez-vous à la ferme du Bourville, évidemment, puisque nous allons parler, entre autres, professions qui connaissent des temps difficiles. Il y en a une qui n'est pas honorée comme elle le devrait. Vous vouliez nous parler ce matin, Fanny Agostini, de l'apiculture.
complètement, Mathieu. Surveiller les ruches qui sortent de leur hivernage, remplacer les colonies qui se sont affaiblies durant les frimas, changer la reine, déplacer les ruches sur les champs de culture. Les apiculteurs sont sur le pont en ce moment et doivent conserver leur mobilité et continuer à s'occuper de leurs ruches. Pourquoi c'est important, Mathieu ? Eh bien parce que le printemps a commencé, tout est en train de fleurir en ce moment et de bourgeonner dans la nature. Et ben c'est justement le moment clé où les abeilles doivent être au taquet.
Et s'il n'y a pas de pollinisation, rappelons-le, il n'y a pas de production fruitière et maraîchère.
C'est ça le risque. Les abeilles permettent la reproduction des plantes et des fruits à hauteur de 30% de notre tonnage d'aliments. Elles sont donc vraiment, vraiment, vraiment essentielles à notre nourriture. Et l'intervention des apiculteurs est cruciale si on veut maintenir notre production alimentaire, car les abeilles sauvages, à elles seules, ne sont pas en mesure de faire tout le boulot dans les champs de culture.
Les apiculteurs qui redoutent aussi de souffrir de la situation actuelle pour vendre leur miel.
Oui, ça c'est aussi un autre problème. Essentiellement les petits producteurs qui vendent leur miel de printemps sur les marchés, à ce jour encore fermés. L'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, lance d'ailleurs un appel à tous les amateurs de miel en alertant sur cette rupture liée au confinement qui a déjà des conséquences majeures et inédites en termes de survie des ruchers. Non pas comme ces dernières années suite à des pertes de cheptel, mais pour la première fois dans l'histoire de l'apiculture au niveau de l'impossibilité de vendre le miel. Il est donc nécessaire dans ce contexte et afin de soutenir la filière apicole, de modifier un petit peu nos habitudes alimentaires en privilégiant les circuits courts, en se rapprochant aussi de chaque apiculteur pour connaître quels sont ses modes de livraison et de vente mis en place. Durant cette période de confinement, soutenons et disons aussi merci, merci à nos apiculteurs.
Merci à vous aussi Fanny Agostini. Tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature en direct de votre ferme pédagogique en Haute-Loire. Le rendez-vous à la ferme, juste après le journal de 9h désormais. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et on se régale les abeilles aujourd'hui. Elles sont, moi chez moi, elles sont sur mes camélias en ce moment. C'est vraiment un régal de les voir. Elles vont se régaler, pourquoi ? Parce que le temps sera calme, pas beaucoup de vent, un soleil omniprésent. Alors depuis ce matin, j'ai quand même perdu un petit peu de ma superbe. Hein. Je suis un peu plus chafouin parce que à 5-6 heures, je vous disais, il fera beau, il y a du soleil, un soleil rayonnant. Et puis là, je m'aperçois que dans l'après-midi, les nuages seront très présents sur la France. Alors donc, non pas qu'ils vont prendre le dessus, mais pas loin, de sorte que sur la moitié nord, Sur la moitié nord, ce sera beaucoup moins ensoleillé qu'espéré. Et sur les régions d'extrême sud, alors là, c'est carrément un temps très couvert avec de la pluie, des petites pluies au pied des Pyrénées, sur le Piémont, Tarbes, Saint-Giron, Lourdes, etc., jusqu'à Perpignan. Voilà, pour une journée, ma foi, assez calme dans l'ensemble, je le disais, puisque le vent 40-50 km/h, les températures remontent, elles étaient entre moins 5 et plus 5, et dans la journée, entre 13 et 16. Un dernier mot pour vous dire que demain, le soleil sera présent sur toute la moitié sud et ce sera de plus en plus nuageux sur les régions septentrionales. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol pour la météo, 9h13.
Europe 1.
La situation dans les EHPAD, les personnels mais aussi les familles. Je vous attends au 39-21. On en parle dans quelques toutes petites secondes.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, vous avez fait le bon choix. La situation dans les EHPAD à la une ce matin avec mon invité Laurent Garcia, cadre de santé dans l'EHPAD Les 4 saisons de Bagnolet. Bonjour Laurent Garcia.
Bonjour.
Et merci mille fois d'être en direct avec nous ce matin. Situation complexe dans les EHPAD, nous allons en parler avec vous et avec les témoignages de nos auditeurs. J'insiste et je salue d'ailleurs au nom de l'équipe de la matinale d'Europe 1 le travail de la grande reporter au monde, Florence Obna. Elle a passé les 11 premiers jours de la période de confinement dans votre établissement et elle a publié dans Le Monde daté d'hier une double voire triple page, hein, je crois, dans Le Monde justement sur cette période de confinement, la vie à l'intérieur de l'EHPAD. Saluons son travail, il nous a inspiré pour vous inviter ce matin. Vous êtes en première ligne, Laurent Garcia.
En première ligne, moi peut-être pas, mes équipes certainement. Oui. C'est, oui. Et grâce à Florence, j'avoue qu'il y a eu un élan pour mes équipes. Elles sont reboostées, elles sont remontées à bloc parce que certains articles étaient juste magiques.
Il vous rend hommage, hein. Il rend hommage à vos équipes, précisément. Je vais citer cet élément de la toute fin de l'article avec Martine qui travaille chez vous et qui se demande à la fenêtre, mais c'est moi aussi qu'on applaudit. Ben oui, c'est ça aussi la réalité de cette solidarité aujourd'hui.
Tout à fait. Et ces applaudissements, même s'ils sont parfois contredits par certaines personnes, nous font du bien. C'est juste des applaudissements, mais ça nous tire les larmes. Voilà.
Et c'est important.
Simplement.
Je suis ravi de vous avoir avec nous en direct et avec nos auditeurs, vous particulièrement évidemment. Maria Luisa est responsable de maison de retraite, je crois. Maria Luisa, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes une consoeur de Laurent Garcia, du côté de Vesoul, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Je suis référente dans une EHPAD qui s'appelle La Comboté à Fougerolles. Donc cette EHPAD, c'est 40 résidents qui, à cet instant, sont tous confinés dans leur chambre. Et donc, avec toutes les précautions et les mesures barrières et confinement qui impliquent beaucoup, beaucoup de prise en soin. Et tout ça est bien très, très anxiogène pour les résidents. Donc, effectivement, nous, on a mis en place des moyens tels que Skype sur notre structure pour pouvoir, pour ces personnes qui sont confinées, avoir un lien avec les familles. Et puis, nous avons j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très, très solidaire. Moi-même, on n'hésite pas à aller faire l'aide-soignante, faire l'infirmière, vraiment répondre au maximum et à apporter à ces résidents, comme aujourd'hui, un beau soleil dans leur journée et dans leur chambre.
Je voudrais, à travers vos témoignages à tous les deux, Laurent Garcia et Maria Louisa, aussi souligner le fait que dans le confinement, on a pu penser qu'on abandonnait les seniors, les personnes âgées dans les EHPAD. Elles ne sont pas seules puisque vous êtes là et puisque Claudine est là aussi. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes bénévole dans un EHPAD.
Oui, je suis bénévole dans un EHPAD et je vais régulièrement, entre autres, pour faire des conférences, enfin avoir des contacts avec les résidents. Et bien entendu, comme tout le monde, je ne peux plus rentrer dans l'EHPAD depuis le confinement. Et ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de ces résidents qui sont confinés dans leur chambre sont vraiment seuls. Tout le monde n'a pas de famille. Et je sais que dans les EHPAD, enfin dans celui où je vais, on essaye de garder des contacts avec les gens de l'extérieur. Mais j'angoisse un peu à l'idée de retrouver cet EHPAD à la fin du confinement, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui n'auront plus la force de remonter la pente, qui vont se laisser aller, parce qu'ils auront été complètement seuls. Les bénévoles, parce que je ne suis pas la seule dans l'EHPAD, sont vraiment pour beaucoup le seul lien qu'ils ont avec l'extérieur. Bien entendu, en dehors des soignants, du personnel. Mais nous sommes vraiment le lien qu'ils ont avec l'extérieur, et en fait, on leur apporte beaucoup. Je suis un peu inquiète à la fin du confinement de ce que je vais trouver.
Je sais que Laurent Garcia, c'est votre inquiétude aussi, une forme de démoralisation qui, il faut le préciser, à l'âge des résidents, peut être inquiétante.
Oui, complètement. Après, je pense qu'il faut être imaginatif et proposer d'autres choses. Mais c'est vrai que la fin du confinement m'inquiète, oui, énormément, parce que les résidents en chambre mangent moins, sont peut-être plus déprimé qu'auparavant. Et c'est difficile, du coup, il faut de l'imagination, il faut créer d'autres choses, comme des repas porte-à-porte. Moi, ils restent dans leur chambre, mais les portes sont ouvertes au moment du repas et ils peuvent discuter entre eux, en criant un peu, j'avoue, mais ça met de l'ambiance, ça fait rire.
La vie de confiné, je salue encore le travail de notre consoeur Florence Obna, mais c'est ça que vous nous racontez, c'est l'intérieur de cet espace clos aujourd'hui. Maria Louisa, vous constatez simplement ce que disait Laurent Garcia, par exemple, sur l'alimentation des personnes âgées. Est-ce que vous aussi, vous constatez cela?
Oui, totalement, totalement. Et moi, je suis aussi inquiète. Et il est vrai que dans notre organisation, avec les moyens que nous avons actuellement, on essaye d'être très, très vigilant en essayant d'apporter régulièrement les soignants, d'aller plusieurs fois dans les chambres pour s'assurer aide d'hydratation, aide d'alimentation, car on sait très bien que les personnes âgées, dès l'instant qu'il y a ce confinement, il y a moins de surveillance. Donc, effectivement, ça m'inquiète. Et je rebondis aussi sur ce que disait cette bénévole, car moi, sur mon EHPAD de la Comboté, effectivement, j'ai aussi des bénévoles qui intervenaient, qui ne peuvent plus intervenir, malheureusement. Et toutes ces actions que je reconnais, que sincèrement, je suis reconnaissante de ces bénévoles qui nous aident tout au long de l'année, nous manquent cruellement, nous manquent. Et je rebondis en disant merci et surtout, revenez dans les moments où, l'après-confinement, on aura besoin de vous. On met en place tous les moyens, c'est le personnel qui est sur le premier plan pour les petits besoins que donnaient les bénévoles. Mais après, on aura besoin de vous et un grand, grand reconnaissance à tous ces bénévoles et à toutes ces aides.
Vous l'entendez, hein, Claudine? C'est important. C'est important aussi, ces remerciements. Merci, Claudine, de votre appel. Maria Louisa,
merci, au revoir.
Maria Louisa, vous avez 5 minutes pour rester avec nous à l'antenne?
Oui, bien sûr.
Je vous garde. Avec Laurent Garcia, on apprend des choses. Je sais qu'on rassure aussi, quelque part, les familles à travers les témoignages que vous donnez ce matin sur l'antenne d'Europe 1. On revient dans quelques secondes. La situation dans les EHPAD et Laurent Garcia, votre combat aussi pour équiper le personnel. On va en parler. À tout de suite.
Mathieu Béliard.
Nous sommes en direct sur Europe 1 jusqu'à 9h30, la matinale prolongée. Et Laurent Garcia, cadre de santé dans l'EHPAD Les 4 Saisons de Bagnolet. Je me suis permis de garder avec nous Laurent Garcia, Maria Louisa, responsable de la maison de retraite de Vesoul. Comment s'appelle cette maison déjà? La Compodée,
alors, ça s'appelle La Comboté à Comboté. Fougerolles, c'est à 35 voilà. Km de Vesoul.
Et c'est noté, comme ça je ne dirai plus de bêtises. Alors, sur le hashtag Radio Ouverte, Sébastien Meillot nous écrit « Ma mère de 65 ans est aide-soignante en EHPAD. La surcharge de travail, la proximité avec les résidents sont de vrais risques qui, franchement, me font peur pour elle. » Laurent Garcia, dans l'article qui vous est consacré dans Le Monde daté d'hier, on suit votre combat pour équiper les personnels. Et ce combat, c'est un euphémisme. Hein.
Oui, c'était un euphémisme il y a encore une semaine, parce qu'on gérait à flux tendu, les masques notamment, on va être clair, les solutions hydroalcooliques. Ça l'est moins maintenant, mais ça a été très dur parce que pour dire au personnel, je peux pas vous protéger totalement, parce qu'un masque se change tous les 3-4 heures, compter les masques, leur donner au compte-gouttes tous les matins... C'était terrible. Je suis cadre de santé, je suis pas flic et je suis pas là pour compter. Moi, si elles ont besoin, il aurait fallu que je puisse leur donner. À l'heure actuelle, maintenant, elles ont toutes des masques, mais ça a été douloureux, angoissant, inquiétant. Et voilà.
Et très, leur famille, dans l'article, qui leur disent « Mais tu vas pas aller travailler, pourtant elles sont là. » Vous leur expliquez qu'il n'y a pas de masque. Et pardonnez-moi, mais je raconte juste ce détail-là. On vous dit « C'est pas grave, on va le faire. » Vous dites « Si, c'est grave. »
Mais oui, c'est grave. Moi mes équipes, je les aime profondément. Et oui, c'est grave de ne pas pouvoir les protéger totalement. Bien évidemment que c'était grave. Et la direction et moi, on n'en portait pas parce qu'on ne voulait pas gaspiller. Et voilà, mais oui, c'était très grave.
Alors, Nadège est en ligne avec nous au 39-21. On va revenir avec un petit sourire, si on peut se le permettre, sur justement bien l'état d'esprit des résidents, comment garder le contact avec l'extérieur. Bonjour, Nadège.
Bonjour.
Et ça, c'est la force aussi de cette antenne ouverte sur la radio ouverte Europe 1. Vous êtes présidente de la Fondation Boulanger. Alors, Boulanger, on connaît, hein, la Hi-Fi, l'électroménager, les magasins. Vous fournissez les EHPAD en tablettes connectées.
On fournit les EHPAD en tablettes connectées. J'écoute votre émission depuis le début sur le sujet. On voit bien que l'urgence médicale, elle est indissociable des liens humains. J'entendais Maria Louisa et d'autres auditeurs parler de liens de solidarité, du fait que les personnes âgées étaient coupées de leurs proches et de leur famille. Forcément, on peut pas rester insensible à ça. Donc la Fondation Boulanger, qui est portée par les équipes Boulanger Électrodépôt, a initié la semaine dernière l'opération Un Monde de Liens, en offrant à la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France 10 000 tablettes connectées. Un monde de liens, ça consiste à offrir, à approvisionner, à livrer partout en France, dans les hôpitaux et les EHPAD, des tablettes pour permettre aux résidents de garder les liens avec leur famille. Des liens d'autant plus importants aujourd'hui.
Combien de tablettes livrées dans les EHPAD français aujourd'hui, Nadège?
Alors, en 4 jours, les 10 000 tablettes ont été attribuées par la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France. Elles sont en livraison, la 10 millième part aujourd'hui. Mais on en est aujourd'hui à une demande de plus de 25 000 tablettes pour plus de 3 000 établissements. Donc, un fonds dédié a été créé par la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France. Et on essaye de trouver des partenaires pour continuer.
Et je pense qu'on va finir, Nadège, par vous mettre en relation aussi avec Maria Louisa et Laurent Garcia. Au passage, je cite le message, l'appel de Bénédicte qui nous a appelé de la Manche. Je voudrais remercier l'EHPAD, le Nouveau Monde à Roubaix. Ils sont extraordinaires avec ma mère. Voilà, il fallait le dire, ce message. Laurent Garcia, alors les tablettes connectées, très bien. Est-ce que de temps en temps, quand on connaît ces résidents, on n'est pas tenté de faire des petits écarts à la réglementation, au confinement justement, pour leur redonner un sourire?
Moi, j'en fais tous les jours, parce que sinon, c'est pas tenable. J'en fais tous les jours des écarts. J'organise des repas à deux, que j'appelle des repas d'amoureux. je sors avec un résident de temps en temps pour qu'il puisse aller faire ses courses. J'ai hier fait venir une famille parce que ça me semblait important. Les écarts, ils sont importants. Oui, il faut en faire des écarts, c'est obligatoire. C'est pas une prison, un EHPAD, même si...
Bah, le temps du confinement est particulier, mais moi je suis très heureux ce matin. Maria-Louisa qui était en ligne avec nous et vous, Laurent Garcia, parce qu'on remet aussi un peu de positif sur les personnels des EHPAD ce matin. On dit, quand on parle des EHPAD dans les médias, c'est souvent pour traiter des sujets où ça se passe mal.
Mais ça a redonné du sens aux familles. Les familles nous voient d'un œil différent et nous remercient tous les jours. Tous les jours, les familles nous remercient et on n'est plus une équipe. Nous, dans l'EHPAD, on est une vraie famille. On se soutient tous, on fait tous le même boulot. Ben, s'il y a quelque chose de positif à retirer, c'est ça, quoi. On est soudés.
Merci à tous. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, si ce n'est que d'inciter nos auditeurs à lire cette triple page dans Le Monde datée d'hier. Notre consoeur Florence Obna, qui est restée confinée avec vous dans votre EHPAD, les quatre saisons de Bagnolet, Laurent Garcia. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à nos auditeurs. Maria-Louisa, d'avoir participé à cet échange. Et puis oui, à 20h, quand on applaudit le personnel de santé, on applaudit aussi les personnels des EHPAD. Et c'était important de le souligner ce matin. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'appel. Il est 9h28 sur Europe 1, la radio ouverte continue évidemment toute la journée avec Philippe Vandel, notamment pour Culture Média, jusqu'à 11h. Dans un tout petit instant, la France bouge à midi, Raphaël Duchemin et Pierre de Villeneuve. Aujourd'hui, on va parler des tests sur le coronavirus. Moi, je serai là demain matin à 6h précisément pour vous réveiller, vous informer, vous divertir un peu. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.